6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans cette édition, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens priée de quitter ses locaux à Jérusalem.
L'UNRWA appelée à cesser ses opérations à Jérusalem où elle gère notamment des écoles, conséquence d'une loi votée par le Parlement israélien. C'était en octobre dernier et annonce alors qu'Antonio Guterres avait réaffirmé son soutien aux actions de l'agence de l'ONU. Nous sommes à New York dans un instant. À la une également, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui appellent leurs ressortissants à quitter Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent sur deux fronts, à l'ouest et au nord de Goma, entre le groupe armé du M23 et l'armée congolaise et ses alliés. Dans ce journal aussi, Vladimir Poutine qui se dit prêt à négocier avec Donald Trump concernant l'Ukraine. Une tentative de manipulation pour Volodymyr Zelensky. Et puis en France, les associations de défense des sans-papiers dénoncent le tour de vis de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, concernant les conditions de régularisation des sans-papiers.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens priée de quitter d'ici jeudi Jérusalem-Est.
Oui, l'agence est appelée à évacuer ses bâtiments, à cesser ses opérations à Jérusalem et donc Jérusalem-Est notamment, secteur de la ville occupé et annexé par Israël. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danone, l'a annoncé dans une lettre adressée à Antonio Guterres, conséquence directe de la loi votée à une très large majorité par le Parlement israélien fin octobre et qui interdisait les activités de l'agence. Qu'Israël cherche, je le rappelle, à affaiblir depuis des années. Israël qui accuse notamment des agents de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. À New York, les précisions de Karine Auton.
Il y a quelques jours encore, le patron suisse de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, confiait ne pas avoir été informé par Israël des conséquences du vote de la loi par la Knesset. Celle-ci interdisant toute activité de l'agence dans les territoires israéliens souverains, il avait supposé que cela concernerait Jérusalem-Est, secteur de la ville sainte occupé par Israël depuis 1967, et il avait raison. L'agence onusienne devra faire ses cartons cette semaine, donc d'ici le 30 janvier, dans cette zone où sont enregistrés 206 000 réfugiés palestiniens. Sur place, elle gère 6 écoles pour 767 écoliers et collégiens, ainsi que 2 centres de soins où sont enregistrés 46 000 patients. Antonio Guterres n'a pas réagi directement à cette annonce, mais il a déjà regretté la décision israélienne. Pour lui, l'UNRWA ne peut être remplacée par aucune autre agence onusienne. Il a rappelé que la responsabilité incomberait alors à la puissance occupante Israël de prendre en charge les réfugiés palestiniens. Cette nouvelle confirme que l'UNRWA pourra continuer à fonctionner à Gaza et en Cisjordanie et il sera paradoxalement plus compliqué du coup de mobiliser la communauté internationale sur ce précédent à Jérusalem-Est. Karine Auton, New York, RFI.
Le Proche-Orient où le Hamas doit par ailleurs libérer dans la journée 4 soldats israéliens otages à Gaza depuis le 7 octobre 2023 contre plusieurs dizaines de détenus palestiniens en Israël. Deuxième échange prévu par l'accord de trêve entré en vigueur il y a une semaine.
La France, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à quitter Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Les autorités des trois pays évoquent la dégradation rapide de la situation sécuritaire alors que les combats se poursuivent sur deux fronts à une vingtaine de kilomètres à l'ouest et au nord de Goma. D'intenses affrontements ont opposé hier dans la région le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par des unités d'élite des casques bleus des Nations Unies, la MONUSCO qui se dit activement engagée dans les combats. À Rubavu, le district rwandais voisin, le commerce transfrontalier, lui, reste actif malgré les difficultés liées à l'incertitude sécuritaire. Reportage sur place, Lucie Mouillot.
À côté de la petite barrière, les transporteurs s'activent pour charger leurs marchandises sur les chariots. Le marché est rempli malgré les détonations entendues jusqu'à Rubavu. Théoneste Atadje Kimana s'apprête à partir pour Goma.
Ce n'est pas pareil que d'habitude. On nous conseille, si on va à Goma, de revenir vite. Ce qu'on dit, on le respecte, à cause de l'incertitude sur la sécurité.
Plus loin dans la ville, même si la frontière reste ouverte, de nombreux camions attendent dans leur parking l'évolution de la situation sécuritaire. Jean de Dieu Isabayo, président de la coopérative des conducteurs transfrontaliers.
De notre côté, la situation est normale. Mais les clients en RDC qui attendent les camions et les propriétaires des véhicules ont peur des problèmes de sécurité.
À la grande barrière, des habitants de Goma préfèrent par précaution passer la nuit de l'autre côté de la frontière. Des entrées plus nombreuses que d'habitude, mais pas de mouvement de masse, explique le maire de Rubavu, Prosper Moulindoua.
Nous sommes prêts à recevoir les réfugiés si jamais ils arrivent. Nous allons observer la situation et prendre des décisions dépendamment de la situation qui s'améliore ou qui se détériore.
Dans un communiqué publié jeudi, la société civile de Goma a appelé la population à rester calme et à ne pas quitter la ville. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Et le président congolais Félix Tshisekedi a lui présidé hier un conseil de défense. À noter que l'armée congolaise a confirmé hier la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani.
Le nouveau chef de la diplomatie américaine annonce le gel de la quasi-intégralité de l'aide fournie par les États-Unis à l'étranger.
Oui, quelques exceptions, l'Égypte et Israël, ainsi que l'aide alimentaire d'urgence. Objectif affiché par le nouveau patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, réexaminer tous les programmes d'aide dans le monde. La circulaire découle directement du décret pris par Donald Trump lundi, dès le jour de son investiture, et ce pour 90 jours. Et puis c'est officiel, le nouveau secrétaire de la défense, à la défense aux États-Unis, autrement dit le chef du Pentagone, s'appelle Peter Hegseth. Sa nomination a été validée de justesse par le Sénat ces dernières heures, 51 voix contre 50. Trois sénateurs républicains se sont prononcés c'est contre sa nomination. L'ancien animateur de Fox News, vétéran de l'armée américaine, est l'une des personnalités les plus controversées à avoir jamais été nommé à la tête du Pentagone. Avant sa nomination, il s'était notamment opposé à la présence de femmes dans des rôles de combat. Lui a tendu la main à Donald Trump lors d'une interview à la télévision russe. Le président Vladimir Poutine se dit prêt à une éventuelle rencontre pour évoquer notamment le conflit ukrainien. Proposition qui va dans le sens de Donald Trump, mais qui inquiète Kiev, qui dénonce une vaste manipulation. Précision Pierre-Olivier.
Depuis 24 heures, les deux présidents donnent l'impression d'être plus en face que jamais. Quand Donald Trump fait savoir à des journalistes qu'il aimerait rencontrer Vladimir Poutine dès que possible, ce dernier ne perd pas de temps et lui répond à la télévision russe, en allant même jusqu'à souligner certaines qualités qu'aurait le nouveau président américain.
En ce qui concerne les négociations, nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner encore, que nous sommes prêts à négocier sur la question ukrainienne. Donald Trump n'est pas seulement une personne intelligente, c'est une personne pragmatique. Je ne peux qu'être d'accord avec lui pour dire que si on ne lui avait pas volé la victoire en 2020, il n'y aurait peut-être pas eu la crise qui s'est produite en Ukraine.
Mais quel crédit apporter à ces déclarations plutôt flatteuses du président russe? Déjà, Kiev met en garde. Si une future négociation doit avoir lieu pour mettre un terme au conflit ukrainien, elle ne peut se faire sans l'Ukraine, qui craint de ne pas être en position de force. Le président Volodymyr Zelensky va même plus loin, estimant que Vladimir Poutine veut manipuler Donald Trump et les Occidentaux pour mieux continuer la guerre.
Et les précisions de Pierre-Olivier.
RFI 6h08 à Paris, nouvelle journée de force. Automobilisation hier en Serbie.
Où des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté dans tout le pays contre la corruption et le népotisme. Trois mois tout juste après l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad qui avait tué au moins 15 personnes. Le pouvoir du président populiste Aleksandar Vučić n'a jamais semblé à ce point contesté. Reportage à Belgrade, Louis Seyi.
C'est une véritable marée humaine qui a répondu à l'appel des étudiants et envahi les boulevards de la capitale serbe. À 22 ans, Milan Petrovic donne de la voix dans son mégaphone.
Aujourd'hui, nous appelons à une grève générale pour que tout s'arrête pendant une journée en Serbie et pour dire aux gens que le système ne fonctionne pas dans notre pays.
Manifestations et blocages de rue, le mouvement étudiant réclame toujours justice pour les victimes de la catastrophe de Novi Sad. Au milieu de la foule, Marta tient une pancarte avec des mains rouges.
C'est l'un des symboles de notre mouvement. Ses mains sont ensanglantées parce que les autorités sont restées si longtemps silencieuses. Aujourd'hui, tout le monde doit se réveiller. On doit tous descendre dans la rue et prendre part à la mobilisation.
Depuis lundi, beaucoup d'écoles du pays se sont mises en grève. Petar est venu manifester avec ses collègues enseignants. Tous dénoncent le système corrompu d'Aleksandar Vučić et son parti, le SNS, au pouvoir depuis 2012.
La justice n'existe pas dans ce pays, c'est la mafia qui est au pouvoir ici. Les élections sont basées sur le vol. Un seul mot me vient, mafia.
Alors qu'il accuse les renseignements occidentaux de chercher à le renverser, le président Vučić a mobilisé ses soutiens à l'occasion d'une contre-manifestation organisée en fin de journée dans une ville du centre du pays. Louis Seyé, Belgrade, RFI.
Direction à présent l'Équateur. C'était il y a un peu plus d'un an, le président Daniel Noboa décrétait la guerre contre les bandes criminelles qui contrôlent le narcotrafic. Plus d'une vingtaine ont été déclarées terroristes. L'une d'elles, Los Lobos ou les Loups, vient de perdre l'un de ses leaders. Correspondance Eric Sanson.
Carlos D, alias le Chinois, a été arrêté dans une villa cossu du quartier de la Sequita dans la ville de Porto Viejo. Les autorités ont saisi de grandes quantités d'argent liquide, des voitures blindées, des armes de poing, des fusils et de la drogue. Considéré comme un objectif de grande valeur, il a été détenu avec deux de ses hommes lors d'une opération où les militaires n'avaient pas lésiné sur les moyens. Alias le Chinois est en effet le numéro 2 du groupe armé organisé Los Lobos. Les Loups ne le cèdent en puissance qu'au groupe des Choneros, la bande criminelle la plus ancienne de l'Équateur. Après l'assassinat de son leader, des conflits internes avaient provoqué la dislocation des Choneros en de nombreux groupes, parfois alliés, parfois opposés. Ceux restés fidèles aux Choneros travaillent avec le cartel mexicain de Sinaloa, alors que leurs opposants, comme les Lobos, sont alliés au cartel Jalisco Nouvelle Génération. C'est cette guerre mexicaine transposée en Équateur qui explique d'ailleurs la hausse considérable de la criminalité dans le pays. Outre le trafic de drogue, l'extorsion et les assassinats sur commande, les Loups sont dominants dans la région andine et très actifs dans l'activité minière illégale. Eric Sanson, Quito, RFI.
Le narcotrafic dont le gouvernement français a fait sa priorité alors que les narcomicides, autrement dit les assassinats liés au trafic de drogue, sont en forte hausse en Seine-Saint-Denis. Ils ont triplé en 2024 par rapport à 2023. Et puis toujours en France, le tour de vis affiché du ministre de l'Intérieur, cette fois en matière d'immigration. Bruno Retailleau a envoyé hier au préfet une nouvelle circulaire. Elle durcit les conditions de régularisation des sans-papiers avec notamment une condition de séjour sur le territoire d'au moins 7 ans. La circulaire est bien plus stricte que la circulaire Valls, publiée en 2012. Écoutez, maître Sylvain Saligari, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des étrangers.
Depuis maintenant plusieurs années, on a des difficultés pour obtenir la régularisation de personnes qui travaillent, mais également des familles. Nous n'arrivons d'abord pas à avoir de rendez-vous. Et quand nous avons des rendez-vous, les délais d'attente sont extrêmement longs, puisqu'on a régulièrement des personnes qui attendent depuis un an, voire des fois deux ans, une réponse de la préfecture. Alors évidemment que cette circulaire va encore durcir les conditions pour obtenir un titre de séjour, mais la circulaire ne lie pas le juge. Et donc le juge prévaudra toujours. Savoir que même si la circulaire, par exemple, exige 7 ans de présence en France, si vous avez une cellule familiale assez forte et, par exemple, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, si vous avez un certain nombre de conditions, le refus de séjour porterait atteinte à votre vie privée familiale. Et ça, c'est protégé par la loi et c'est protégé également par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la loi s'imposera toujours, évidemment, par rapport à la circulaire. Et les juges sont là pour faire respecter la loi.
Maître Sylvain Saligari, propos recueillis par Marie Cazadebé.
Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. Samedi 25 janvier 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo à la une. Des combats violents qui se poursuivent à l'ouest et au nord de Goma, capitale du Nord Kivu, entre l'armée congolaise appuyée par les casques bleus et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à quitter Goma. On fait le point avec notre correspondante Paulina Zidi en direct dans moins de 20 minutes et on en parle aussi avec Jean-Baptiste Placa dans son regard de la semaine. L'actualité ce matin, c'est aussi le Proche-Orient et la deuxième salve de libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, bientôt une semaine après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, notre envoyé spécial Nicolas Falaise nous appelle à 6h, temps universel. Et on en parle aussi alors que l'offensive de l'armée israélienne se poursuit à Jenin, en Cisjordanie occupée. Notre grande invitée internationale dans une heure est Yosra Frawes, directrice du bureau Maghreb-Moyen-Orient de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Il est 6h14 à Paris. Et pour commencer ce matin l'un des événements sportifs de ce début d'année en France et en Europe, la plus grande ligue du monde de basket. À Paris, la NBA est dans la capitale française. Deuxième et dernier match ce soir et peut-être la revanche des Pacers, battus à plate couture jeudi par les San Antonio Spurs et le français Victor Wembanyama. Un retour à la maison en grande pompe pour Wemby, un bout de rêve américain en plein Paris. Mais tout cela a un prix. Les 16 000 spectateurs de l'Accor Arena ont dû casser la tirelire, environ 350€ la place en moyenne. Inaccessible pour la plupart des passionnés de basket américain, de plus en plus nombreux et de plus en plus connectés à la NBA, Victor Messistrano.
Chaque jeudi soir après l'entraînement, les joueurs de ce petit club de basket de l'Est parisien jouent les prolongations autour d'un verre. Cette semaine, le planning n'a pas changé, pas de match NBA. Tous auraient espéré une offre plus accessible.
Des prix abordables, notamment moins de 100€, tu vois.
Là, le prix des places me refroidit trop.
J'ai même pas regardé, mais je sais que les deux, trois dernières années, c'était au-dessus de 600€, truc comme ça. Ils auraient pu au moins faire peut-être quelque chose avec les licenciés de la Fédération de basket.
Ces deux matchs NBA offrent aux spectateurs européens des horaires plus classiques, car c'est aussi le décalage qui rend les matchs plus difficiles à suivre, comme l'explique Fabien, grand passionné de basket américain.
Quand t'es au chômage, ouais, c'est facile, ouais. Parce que là, du coup, tu peux mater les matchs le lendemain matin. Mais évidemment, quand tu travailles, tu fais 9h-18h30, c'est compliqué de mater les matchs. Mais si t'es un vrai passionné, tu peux mater un match par semaine en général. Moi, c'est mon rythme. J'ai oublié, il y a le dimanche soir. Généralement, c'est un match qui commence à 20h30-21h. Donc là, c'est abordable pour nous, on peut le regarder. Après, t'as aussi en vrai Instagram où tu peux voir tous les résumés. Bon, les meilleures actions d'un match, ça peut être un dunk, un contre.
Le patron de la NBA, Adam Silver, l'a bien compris, se délocaliser ne suffit pas pour conquérir un nouveau public.
Je pense qu'il se développera via diverses formes de médias. Nous parlons de délocaliser plus de matchs en Europe, mais ce n'est pas extensible. Et ce n'est rien par rapport à notre public mondial. 2 milliards de personnes consomment la NBA d'une manière ou d'une autre au cours d'une année.
Selon Adam Silver, les réseaux sociaux permettent de cultiver l'intérêt pour les matchs. Contrairement à la plupart des ligues de football qui verrouillent leur contenu, la NBA adopte une stratégie inverse.
Les technologies de diffusion en continu nous permettent de personnaliser les flux, consommateur par consommateur, fan par fan. Si je veux regarder les matchs des Spurs et Wembanyama et entendre tout ce qu'il fait pendant ce match, c'est possible.
George Eddy aurait eu du mal à imaginer cela il y a 40 ans, quand il est devenu la voix du basket en France, puis en Afrique, sur la chaîne Canal+.
Quand on compare avec les premiers matchs que j'ai faits dans les années 80, c'était des matchs qui étaient joués deux semaines auparavant, donc diffusés en différé. Il y avait un match par semaine. Maintenant, on peut voir tous les matchs, tous les jours. C'est une prolifération grâce à Internet et à la communication moderne. La NBA en profite pleinement et la France aussi.
Illustration avec ce contrat faramineux que vient de signer la NBA. 76 milliards de dollars au total pour les 11 prochaines années.
La NBA à Paris, notre reportage international signé Victor Missistrano, à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Goma, 98 FM.
Et l'actualité ce matin, ce sont aussi ces violents combats qui continuent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont à la une de toutes nos éditions et aussi à la une de Jeune Afrique. On ouvre, comme chaque semaine, les pages du magazine avec Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, l'intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de s'approcher de Goma, la capitale du Nord Kivu. Nous en parlons avec Romain Gras, journaliste pour Jeune Afrique en charge de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Bonjour Romain.
Bonjour Catherine.
Les rebelles du M23 poursuivent donc leur progression dans le Nord Kivu. Peut-on dire aujourd'hui que la ville de Goma est directement menacée ?
Géographiquement, c'est indéniable. Ça fait plus d'un mois que la pression militaire s'est accentuée sur Goma, que les combats se sont multipliés sur plusieurs axes. Des combats qui ont déplacé plus de 237 000 personnes de plus à la mi-janvier. Et désormais, ce qui inquiète, c'est la percée des rebelles sur Sake, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le dernier verrou sur la route de Goma, parce que la cité se situe à une vingtaine de kilomètres. Et le 23 janvier, les rebelles ont poussé pour y occuper des positions, ce qui menace directement la ville de Goma, qui, pour rappel, était déjà tombée en 2012 lors de la première offensive du M23. Et la perte de Goma serait évidemment une perte très symbolique pour les autorités, notamment parce que à la sortie de la ville se trouvent les dernières lignes de défense mises en place par les autorités, avec l'armée congolaise, ses groupes alliés armés locaux, les soldats de la MONUSCO, mais aussi ceux de la SADC.
Dans ces conditions, Romain Gras, la diplomatie a-t-elle encore ses chances? La perspective d'un dialogue ou d'un compromis est-elle réaliste?
C'est très compliqué parce qu'on est dans une sorte de bras de fer aujourd'hui sur cette question de dialogue. On est un peu face à un impossible compromis entre la RDC et le Rwanda, au sens où Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se rencontrer le 15 décembre dernier à Luanda, que cette rencontre a finalement été annulée parce que le président rwandais n'est pas venu. Il a reproché à son homologue de refuser de s'engager dans un dialogue direct avec le M23, ce que la RDC considère en retour comme une ligne rouge. Et si vous voulez, Kinshasa n'envisage un dialogue avec le M23 que si il était organisé avec tous les autres groupes armés, ce qui reviendrait en quelque sorte à noyer les éventuelles revendications des rebelles. Donc on est dans une impasse totale sur le plan de cette médiation, et c'est en quelque sorte cette impasse qui a contribué à ouvrir la voie à l'escalade militaire qu'on constate aujourd'hui.
Romain Gras, quelle est la position de la communauté internationale? Est-ce qu'une relance de la médiation de l'Angola est envisageable? Est-ce que le retour de Donald Trump va changer la donne?
C'est difficile à envisager pour l'instant une relance de la médiation angolaise, même si l'Angola l'espère. Le président Lourenço est venu en France à la mi-janvier. Il a appelé aux côtés d'Emmanuel Macron à une reprise du dialogue au plus haut niveau. Maintenant, il y a la réalité du terrain militaire dont on vient de parler et aussi la réalité diplomatique, au sens où, après être passé plutôt proche d'une rencontre, les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, n'ont cessé de rivaliser d'invectives ces derniers jours. Maintenant, il y a deux échéances qu'il faut prendre en compte. Mi-février, à l'issue du sommet de l'Union africaine, le président Lourenço prendra la présidence tournante de l'organisation continentale, ce qui pourrait l'amener à redoubler d'efforts dans cette médiation. Et de l'autre, vous l'avez dit, il est arrivé au pouvoir de Donald Trump, dont on ne sait pas quel sera le degré d'investissement dans ce conflit, sachant que l'administration Biden avait été assez prompte à épingler le Rwanda pour son rôle dans ce conflit.
Merci Romain Gras. Je rappelle que cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Romain Gras de Jeune Afrique avec Catherine Potet. Prochain point sur la situation dans l'Est de la RDC à 5h30, temps universel. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Comment exprime-t-on ses émotions dans les différentes langues du monde? Pourquoi dit-on aïe quand on se fait mal? Y aurait-il un langage universel de la douleur, comme semble le démontrer une étude comparative menée sur 131 langues différentes?
Aïe, aou, quand ça fait mal, c'est la voyelle A qui sort systématiquement de la bouche des humains, quelle que soit leur langue. C'est le constat de la chercheuse Maya Ponsonnet et de ses collègues de l'Université d'Australie-Occidentale, de l'Université Lumière à Lyon et de l'Université de Hong Kong, qui ont étudié les interjections de douleur, mais aussi de dégoût ou de joie, dans 131 langues différentes sur tous les continents. Résultat paru dans le journal de la Société Acoustique Américaine, en coréen, comme en sérère, en français, comme en langue aborigène d'Australie ou toupie d'Amérique centrale, on dit bien aïe, ou aouche, ou awa, ou akai, ou ayou. Toujours des variations autour du A, qui correspond d'ailleurs au cri poussé par tous les humains quand ils se font mal. Vous pouvez le vérifier si le cœur vous en dit. Quand la douleur est trop forte, on crie « ah » avant de dire « aïe ». C'est ce qu'on appelle des vocalises non linguistiques qui pourraient bien être à l'origine du langage. C'est une hypothèse. Les humains auraient commencé par des vocalises « ah » qui deviennent des interjections « aïe » ou « aouche » ou « akai » compréhensibles et partagées dans nos langues respectives par nos frères et sœurs humains.
Et qu'en est-il des interjections qui expriment le dégoût ou la joie? Est-ce que là aussi, on peut parler de langage universel?
Pas vraiment. Notre burk de dégoût a évidemment des équivalents dans toutes les langues, mais aucune régularité comme les cherchent les linguistes. En revanche, pour exprimer la joie, même si c'est moins flagrant que pour le aïe de douleur, dans la majorité des 131 langues étudiées, Maya Ponsonnet et ses collègues ont mis en évidence la voyelle i, comme dans nos rires et nos sourires, surtout quand il y a de la surprise. Et c'est aussi ce qui ressort de cette étude comparative. Les émotions exprimées ont beau être aux antipodes, c'est dans l'expression et dans la manifestation de la surprise que nos interjections se ressemblent. Une douleur violente s'exprime par aïe ou aouche, une joie inattendue, youpi, hihi, en i, ce qui montre tout de même que nous pouvons partager nos émotions les plus fondamentales, nos douleurs et nos joies, dans toutes les langues et avec tous les locuteurs et locutrices du monde.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme Autour de la question.
Lundi, ethnobiologie autour de la question qu'est-ce qu'une espèce? Et mardi, anthropologie autour d'une vertigineuse question que font les humains avec la vie.
Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, vous nous proposez une réflexion importante, loin des pixels et des boss de fin.
Oui, j'avais envie de parler du bruit incessant autour des débats woke dans l'univers du jeu vidéo. Si vous avez mis un pied sur les réseaux sociaux cette année, vous avez sûrement vu des polémiques sur la diversité dans les jeux. Certains prétendent que cela nuirait à l'industrie ou qu'il s'agit d'une mode imposée. Mais qu'en est-il vraiment ? Et surtout, comment éviter de vous laisser distraire pour continuer à profiter pleinement de vos passions vidéoludiques ? J'aimerais commencer par établir un fait simple. Les jeux vidéo sont un art. Et comme tout art, ils évoluent avec leur époque. La diversité que l'on retrouve aujourd'hui dans les personnages, les histoires ou les mondes reflète la richesse et la pluralité des joueurs eux-mêmes. Des jeux comme The Last of Us Part 2, Life is Strange ou encore Cyberpunk 2077 ne se contentent pas de raconter des histoires classiques. Au contraire, ils mettent en avant des personnages variés avec des identités, des origines et des vécus qui enrichissent la narration. Cela n'enlève rien aux autres types de jeux. Les FPS bourrés d'action ou les RPG épiques coexistent avec des récits plus inclusifs, créant une offre où tout le monde peut trouver son bonheur.
Mais alors pourquoi autant de polémiques, Jennifer ?
Eh bien la réponse est simple, les réseaux sociaux. Ces plateformes amplifient les voix, souvent les plus bruyantes ou les plus radicales. Un jeu inclut un personnage LGBTQ+, met en avant une héroïne ou un personnage noir, et voilà que des discussions enflammées surgissent. Certains crient à une propagande woke, d'autres dénoncent un manque de fidélité à un univers. Mais soyons honnêtes, ces débats représentent en fait une minorité vocale. La majorité des joueurs se contentent de jouer, d'aimer ou de ne pas aimer un jeu pour ses qualités, pas pour ses choix de représentation. Les ventes des titres que j'ai mentionnés plus tôt prouvent que les jeux diversifiés trouvent un public et souvent ont un succès critique, mais aussi commercial.
Et Jennifer, comment ne pas se laisser distraire ?
Voici quelques conseils pour ne pas vous laisser happer par tout ce bruit. Tout d'abord, rappelez-vous de pourquoi vous jouez. Le jeu vidéo est un loisir, un moyen d'évasion, de réflexion ou simplement de plaisir. Alors concentrez-vous sur l'expérience que vous voulez vivre, pas sur ce que les autres disent. Ensuite, ne vous laissez pas influencer par des arguments simplistes. Des critiques comme « la diversité tue l'industrie » manquent de fondement. L'industrie du jeu vidéo est plus florissante que jamais et les studios n'ont jamais eu autant de liberté créative. Troisième conseil, eh bien, jugez les jeux sur leur qualité globale. Scénario, gameplay, graphisme, bande-son, voilà ce qui fait un bon jeu. Si un personnage ou un thème vous interpelle, tant mieux. Et si ce n'est pas votre truc, eh bien, passez à autre chose. Ensuite, prenez du recul par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'un tweet ou une vidéo virale critique un aspect d'un jeu que cela reflète la vie générale. Alors jouez, testez et faites-vous votre propre opinion. Enfin, apprenez à apprécier la diversité comme une richesse. Jouer à un personnage différent de vous, explorer un univers éloigné de votre culture ou découvrir des thèmes que vous ne connaissez pas, c'est aussi ça la magie du jeu vidéo. Voyez ça comme une opportunité de grandir et d'élargir vos horizons. Le meilleur moyen de mettre fin aux débats inutiles, c'est de laisser les jeux parler d'eux-mêmes, qu'ils soient inclusifs ou non. Ce qui compte, c'est leur capacité à captiver, émouvoir ou amuser. Si un jeu réussit à vous transporter dans son univers, alors il a accompli sa mission. Les polémiques passent, mais les grands jeux restent. Alors laissez le bruit derrière vous et profitez de ce que l'industrie a de mieux à vous offrir.
C'est dit, merci Jennifer Lufaux. Et bienvenue sur RFI, si vous nous rejoignez, il est bientôt 5h30 en temps universel et l'info continue dans une minute avec le journal Afrique. À tout de suite.
RFI à Paris, 89 FM. Franceville, 104 FM. La marche du monde. Valérie Nivelon.
À l'heure où les derniers témoins disparaissent, il est plus que jamais nécessaire de raconter avec précision l'histoire de chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme assassiné à Auschwitz par les nazis, parce que juifs. 80 ans après, écoutons leur voix. Ils nous racontent leur vie pour mémoire.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Une armée unifiée pour lutter contre le terrorisme et un passeport commun pour les pays de l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur coopération. Que vous inspirent ces annonces à quelques jours de leur retrait effectif de la CEDEAO?
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi à partir de 8h10 TU.
RFI.